Bonjour, soyez les bienvenus, c'est Eldorado. Soyez les bienvenus pour une heure d'errance en terre rock, folk, etc. À l'hiver 2018 paraît aux éditions de la Contre-Allée ce livre aussi beau titre, La ballade silencieuse de Jackson C. Frank. Il est signé Thomas Giraud et son contenu se révèle à l'aune de son intitulé, d'une beauté grave, d'une mélancolie attentive, d'une douceur précise. La destinée du musicien américain Jackson C. Frank y est narrée en même temps qu'imaginée. À l'instar de ce qui se trame dans la tête de Jackson, sur le fil de la folie, Thomas Giraud mêle dans son récit réel et imaginaire. Si Jackson est un être qui aurait pu être reconnu, être heureux, alors le livre qui se penche sur sa trajectoire se devait d'esquisser des possibles. Ceux qui connaissent la musique de Jackson C. Frank savent de quel drame fut tissé le drap de sa vie, de quel miracle aussi. Il manque de mourir enfant dans un terrible incendie dont il gardera de graves séquelles physiques. Son enfant meurt alors qu'il est tout jeune encore, son amour s'envole, la folie le guette, il devient clochard dans les rues de New York. Cette vie terrible fut cependant émaillée de miracles. Jeune homme, il rencontre son idole Elvis Presley, puis touche une fortune des assurances. Mais le plus grand miracle de la vie de Jackson est son unique album enregistré en 1965 alors qu'il est à Londres. De ce disque, les chansons furent pour leur plupart composées sur le bateau qui le mena outre-Atlantique. Voici quelques lignes de la ballade silencieuse de Jackson C. Frank, puisées justement dans l'air iodé respiré par Jackson durant cette traversée. Sur l'eau, tout s'allonge. On a l'impression d'être capable d'englober d'un seul coup d'œil ce qui nous avait demandé plusieurs mouvements des yeux. On étire le regard pour rendre toute chose horizontale. Et de toute façon, si on ne le fait pas, c'est le paysage qui décide, étire alors le regard à sa manière. Rien ne vient rompre l'horizon, pas de maison, de meule de foin pour ponctuer cette grande nappe bleue. Ce pourrait être très monotone, pourtant son regard est attiré. Ou c'est la mer qui est aimantée par son regard. Il passe les premiers jours de la traversée à ne rien faire sinon flâner, contempler la mer. Au-dessus, au loin, ou juste devant son nez, la tête penchée pour y guetter ses reflets. Il se sent bien. Et sa jambe un peu boiteuse lui fournit un équilibre, un point de bascule que les autres plus ingambes n'ont pas, pour sentir le rythme instable de la mer. Il est favorisé, pour une fois.
Soft and tender are her skies. Yes and no are the answers written in my true love's eyes. Autumn's leaving and winter's coming. I think that I'll be moving along. I've got to leave her and find another. I've got to sing my heart's true song. Round and round the burning circle, all the seasons 1, 2, and 3. Autumn comes, and then the winter. Spring is born and wanders free. Gold and silver burned my autumns all too soon. They'd fade and die, and then why there were no others, milk and honey.
Le jeune Jackson C. Frank enregistre son unique album dans un studio de Londres après que son compatriote, comme lui, un temps exilé, Paul Simon, a réussi à le convaincre d'y entrer. Paul enregistre la poignée de chansons précaires de Jackson comme on attrape les papillons dans un filet, avec patience, avec opiniâtreté. Dans le livre « La ballade silencieuse de Jackson C. Frank » de Thomas Giraud, cet épisode est bien sûr narré. Jackson, trop timide pour faire face à Paul Simon, joue derrière un paravent. Les chansons coulent comme une source tranquille, elles s'enchaînent, naturelles. Vient « Milk and Honey », les mots de Thomas Giraud, à nouveau. La petite surprise qu'il réservait à Paul, « Milk and Honey », sonne idéalement. Il a ajouté des arpèges aux sonorités presque religieuses qui ne dépareraient pas sur ce morceau « Scarborough Fair », que Paul traîne depuis des semaines et pour lequel il manque exactement cela, cette suite d'arpèges. C'est un clin d'œil appuyé, une suggestion un peu présentée comme une fanfaronnade. Ce n'est pas rien de trouver l'introduction d'un morceau de Simon & Garfunkel. Est-ce que Paul y voit un clin d'œil ou bien y entend-il directement l'offrande, la mélodie déjà à lui alors qu'elle est encore entre les doigts de Jackson?
Scarborough Fair, parsley, sage, rosemary, and thyme. Remember me to one who lives there. She once was a true love of mine. Tell her to make me a cabaret shirt, a deep forest green, parsley, sage, rosemary, and thyme. Strands and polishes of fan, she'll be a true love of mine. Tell her to reap it in a sickle of blazing in scarlet battalion. Parsley, sage, rosemary, and thyme. Born of the soldiers to kill. once was a true love of mine.
Scarborough Fair ouvre le troisième album de Simon & Garfunkel qui tire son titre d'un extrait de la chanson Parsley, Sedge, Rosemary and Thyme. Il paraît en 1966, mais c'est 2 ans plus tard, quand Mike Nichols l'utilise pour son film The Graduate, le lauréat en français, avec Dustin Hoffman et Anne Bancroft, que la chanson est sur toutes les lèvres. Mais elle remonte à bien plus loin, au XVIIIe siècle. Scarborough Fair se passe dans la ville de Scarborough, dans le Yorkshire, en Angleterre, qui accueillait un des plus grands marchés du pays. Elle conte l'histoire d'un homme qui demande à une femme une série de tâches impossibles, telles la confection d'une chemise sans couture ni travail d'aiguille, ou la moisson d'un champ à l'aide d'une faux de cuir. Cette ballade du répertoire folk irriguera durablement la musique populaire occidentale. En 1989, ce sont les Stone Roses qui y puisent inspiration. Indie Pop 1979-1997 est un livre de Jean-Marie Potier qui a paru aux éditions du Mot et le Reste en 2015. La page 166 offre une notice consacrée au premier album des Stone Roses. En voici les mots. En 1989, les Stone Roses sont un groupe énervé, prêt à défourailler sur tout ce qui bouge, qui accumule les propos incendiaires sur la reine Elizabeth, le prince Charles, Margaret Thatcher, leur pays en général. Quand les corbeaux quitteront la tour de Londres, l'Angleterre s'effondrera, dit le dicton. Nous voulons être là, en train de tirer sur les corbeaux, résume le chanteur Ian Brown. Symboliquement, l'album change de face sur Elizabeth My Dear, une relecture anti-monarchiste du classique Scarborough Fair de Simon et Garfunkel. Mon but est sincère, mon message est clair, maintenant pour toi, ma chère Elizabeth, c'est rideau. Mais si le disque a quelque chose de l'énergie éphémère du punk, il porte en lui une ambition éternelle. En cette année 1989, qui est celle de tous les bouleversements géopolitiques, les Stone Roses livrent un cours magistral d'histoire sur 3 décennies. L'énorme guitare de John Squire réunit les arpèges des Byrds et la wah-wah de Hendrix, tandis que la section rythmique de Manny et Rennie noue les 2 extrémités des années 80, le dub tribal de Public Image Limited et l'épiphanie Acid House du second Summer of Love de 1988, avec ses paysages multicolores sous stupéfiants. Brown, certes, ne chante pas juste, mais il chante vrai, comme quelqu'un qui sait déjà qu'il appartient à l'histoire et que pendant 45 minutes, son groupe est le meilleur du monde. Le premier travail de John Leckie fut d'être opérateur sur magnétophone à bande sur l'album All Things Must Pass de George Harrison au studio Abbey Road de Londres. J'avais un peu peur. J'imagine que c'est normal à chaque fois qu'on débute un nouveau boulot, on est un peu nerveux. Il faut dire que j'étais dans la même pièce que George Harrison, Eric Clapton et Phil Spector. Puis il officiera sur les disques de Paul McCartney, John Lennon, Pink Floyd ou encore Fela Kuti et Ornette Coleman. Au mi-temps des années 70, Leckie devient ingénieur du son puis vite producteur. C'est à lui que l'on doit ce son à la fois délicat et énorme qui caractérise le superbe disque des Stone Roses en 1989. 20 ans auparavant, John Leckie réalisa la production d'un autre grand disque, Real Life, du groupe Magazine, emmené par le chanteur Howard Devoto. Dans l'excellent hors-série de rock and folk, moderne romance, du post-punk à la new wave, Stan Cuesta évoque ce groupe emblématique de l'après-punk. Howard Devoto est un personnage typique de cette époque de changement profond. Étudiant en art, au look improbable, non-chanteur assumé, il est totalement opposé au statut de rockstar, raison pour laquelle il a quitté les Buzzcocks. Mais Pete Shelley et lui ont écrit une chanson sublime, basée sur un riff de guitare imparable. Ils se la partageront sous deux titres différents. Les Buzzcocks sortiront Lipstick et Magazine Shot by Both Sides, génial premier single. Alors que le morceau frappe à la porte du top 40 britannique et qu'il est en passe de devenir le premier hit du post-punk, Devoto refuse de participer à la fameuse émission Top of the Pops. Quand on le convainc finalement de le faire, il livre une prestation tellement rigide et glaciale que le single rentre dans l'histoire comme le seul à avoir dégringolé dans les charts après un passage dans cette émission censée booster les ventes. Devoto flingue ainsi la carrière commerciale de Magazine.
Given to understand is exactly what I steal. I went my way into the heart of the crowd. Went my way into the heart of the crowd. I was shocked to find what was allowed. I didn't lose myself in the crowd. Shot, shot, by no side. Way into the heart of the crowd.
conduit par ce qu'il appelle lui-même une pulsion négative, Devoto veut, avec Magazine, détruire le nouveau stéréotype du punk rock. Un premier single, Shot by Both Sides, paraît début 1978 chez Virgin. Le titre de la chanson, Fusillé par les deux parties, sert de manifeste à Devoto. Sa place n'est nulle part, il est condamné à un statut d'étranger indésirable dans un monde inhospitalier. La musique de Magazine est à cette image, prisonnière d'un no man's land où le punk rock et ses poussées d'adrénaline, d'une part, et le rock majestueux matiné de musique progressive à la Roxy Music, d'autre part, aux luxuriantes nappes de claviers et de saxophones, se neutralisent dans un climat dévitalisé. Mishka Assayas, comme souvent, trouve les mots justes pour évoquer la musique de Howard Devoto. Le passage éclair de Devoto dans le groupe Buzzcocks est témoigné par un 45 tours édité sur le petit label indépendant Small Wonder, Spiral Scratch. Il est produit par un certain Martin Zero, dont c'est le premier fait d'armes. Derrière ce pseudonyme se cache Martin Hannett, célèbre producteur de Manchester, qui demeure dans les mémoires comme l'inventeur du son de Joy Division, ce son froid, clinique, généré par une séparation des instruments dans le mix, comme s'ils étaient isolés les uns des autres par de fines couches de vent glacé. Hannett retrouvera Devoto et produira les albums de Magazine qui succéderont à Real Life. Hannett a révélé d'autres artistes d'importance. Il produit les premiers essais de U2, Stone Roses, Orchestral Manoeuvres, In the Dark. En 1982, il produit le premier album du groupe français emmené par l'américain Théo Hakola, Orchestre Rouge.
We'll be right back.
Leo Akola est né à Spokane, dans l'état de Washington, aux États-Unis. À 18 ans, il part étudier à Londres l'histoire politique à la London School of Economics, avant de s'installer en Espagne, puis au Guatemala. Quand il revient aux États-Unis, il choisit de résider à New York, où il s'engage au sein du Comité américain pour l'Espagne démocratique, un groupe de soutien aux militants espagnols antifranquistes. Ces voyages ont définitivement ancré Theo Akola à l'extrême gauche. En 1978, il part à nouveau direction Paris. Éclairagiste sonorisateur, journaliste, barman, professeur d'anglais, il y multiplie les métiers et bien sûr fonde son premier groupe, Orchestre Rouge, du nom donné par la Gestapo à un groupe de résistance mis sur pied par l'URSS lors de la Seconde Guerre mondiale. Deux albums paraîtront. La chanson « All in His Thigh » est extraite du premier des deux, « Yellow Laughter », paraissant sur RCA en 1982 et produit par Martin Hannett, qui magnifie le rock sombre et malmené d'Orchestre Rouge. En 1984, Akola monte un nouveau groupe avec lequel il renoue avec ses racines américaines. La country, le folk et la musique cajun viennent abonder les chansons fleuves de Passion Fodder. Heart Hunters est extraite du deuxième album de ce groupe, Fat Tuesday. À l'occasion de l'apparition du disque, en 1986, le NMI décrète que Theo Akola est tel Baudelaire avec une guitare électrique.
Are twisting raggedly. There's a red swell up to his eyes. We're gonna eat the flesh of the high and mighty, for the truths they've turned into lies. And he gets thirsty for a burning draft to put out the fire. Shia bangs her head on the table, 'cause they sawed off Willie's feet. Her voice is a kind of long, sad song, her pounding head an eternal beat. And the father gets angry. Dr. Copeland's black rage turns into white heat. And a strip of hard sand of a dragnet for lost feelings. Oh, how everyone's a woman and a man. And of how there's something wrong, of how the others just keep watching the view. We'll be right back.
trying to recover what was in that music got in her strutting again. Barbara's so soft, little brother. Her love for him's too big for a name. The salty boy tears meet her sleeping kisses mixed with that music and pain. Oh God, that music. Oh, that sad silver train. Now Carson's in a picture in a magazine, drinking coffee after one of her plays. Her left side sagging low on the sofa, but the soul in her eyes is ablaze. Oh God, that longing.
Ça a commencé vers 5 ans quand j'ai découvert Jimi Hendrix. Mais c'est grâce au punk que j'ai commencé à faire de la musique. Comme pas mal de gens, j'ai tenté de jouer vers 12-14 ans. J'étais un mauvais guitariste rythmique et même pas chanteur. C'est en passant par les textes que j'ai osé m'y mettre. Grâce au punk new-yorkais avec Television et Richard Hell, mais aussi aux anglais plus politisés comme Clash. Pour le journaliste de Télérama, Mark Zivman, en 2014, Théo Acola remonte le fil du temps. Avec Passion Fodder, j'avais besoin de retrouver mes racines américaines. En plus d'être chanteur et parolier, je me suis mis plus sérieusement à la guitare. Au début, c'était mon bébé, mais avec le temps, notre entente musicale et humaine a été si bonne que nous sommes devenus un vrai groupe. Quand Acola décide de retourner vivre dans son pays, les États-Unis, c'est la fin de Passion Fodder. Acola entame alors une nouvelle période de créativité où il alterne écriture de romans, mise en scène et interprétation théâtrale et enregistrement de disques en solo. De leur côté, le bassiste et le batteur du groupe Passion Fodder, Pascal Humbert et Jean-Yves Tola, partent rejoindre le chanteur et guitariste originaire de Denver, Colorado, David Eugene Edwards. Le groupe qu'ils fondent tous les trois s'intitule 16 Horsepower.
fought in vain, and the bodies of teen, the bodies of teen, yeah. Where will it end?
Sixteen Horsepower ne fait pas semblant, Sixteen Horsepower ne joue pas, ou si peu, si juste, si droit, comme les Hillbillies d'avant l'invention du phonographe, comme les punks qui voulaient brûler les discothèques. David Eugene Edwards, fruit sec et sombre du puritanisme, élevé dans l'église de son grand-père prédicateur, ne cherche que la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. De la musique, de l'Amérique, de l'âme humaine. Forcément, sa musique américaine parle à l'âme, déchirant l'amidon. Bon fils, bon paroissien, excellent joueur de banjo, Edwards aux doigts d'or, mais piètre patriote, David Eugene Edwards. Dans le nouveau western, chanté par Sixteen Horsepower, le visage pâle est dévoré par le remords. De vieilles blessures saignent sous le lifting, le rêve américain est un cauchemar. 50 étoiles ne peuvent briller qu'au milieu des ténèbres. une Bible à la main, David Eugene Edwards a mis sa tête dans la gueule béante de l'enfer. Stéphane Deschamps, dans Les Inrecuptibles, en 1996, quand 16 Horsepower sortait son premier album, écrivait ces si belles lignes. Ici, je vous proposais de les entendre en concert à l'occasion de la parution de leur premier disque live, Horse, qui paraissait en 2000 dans la foulée de leur troisième album studio. Day of the Lords est une composition du groupe anglais Joy Division, originellement parue sur leur premier album Unknown Pleasures. Un deuxième disque live de 16 Horsepower paraît en 2008, plusieurs années après la séparation du groupe. Si le premier était le témoignage d'un concert donné à Denver, la ville d'origine de Edwards, ce deuxième album live, Live March 2001, est la trace d'un concert donné en Belgique. Une autre reprise de Joy Division y figure, il s'agit de 24 Hours. C'est avec la version originale de cette chanson, avec l'interprétation que Joy Division eux-mêmes en donnaient à l'occasion de leur deuxième album, paru après la disparition de leur chanteur Ian Curtis, Closer, que cette errance en terre rock, folk, etc. trouvera son terme. 24 heures et s'en sera fini de cet épisode d'Eldorado. Merci de votre écoute et peut-être de votre fidélité. Souvenez-vous de cette adresse, vous y trouverez émissions et playlists. www.radio-eldorado.fr. Portez-vous bien, à la prochaine. Ciao.
There's nothing there at all. sympathy held sway. Gotta find my destiny before it gets too late.